L'empire de Satan commence sérieusement à être ébranlé. Songez à tout ce qu'il vient de subir en termes d'assaut depuis le début de l'évangile de Saint-Luc. D'abord, Jésus est victorieux, comme on nous l'a lu il y a 15 jours, victorieux des trois tentations. Ça commence mal pour Satan, il faut bien le dire, la vie publique de Jésus. Un peu plus tard, une de ses légions a été obligée de finir dans un troupeau de porcs. C'est pas très glorieux pour de purs esprits que de finir ainsi. Un démon avait établi ses quartiers dans un épileptique de naissance, et voilà que sur l'ordre de Jésus, il a dû plier bagage. Et au suprême affront, 72 disciples se sont vus confier par Jésus rien de moins que le pouvoir d'exorcisme, c'est-à-dire le pouvoir de circonscrire l'empire des ténèbres. Une telle efficacité de ses apôtres, d'ailleurs, fait s'écrier à Jésus lui-même « Je voyais Satan tomber comme l'éclair ». Alors que Jésus, qui est le Fils de Dieu, se livre à quelque exorcisme de temps à autre, le démon est bien obligé de l'accepter, mais que de simples créatures, des petits vermisseaux que nous sommes, bien sûr pourvus du pouvoir du Seigneur, mais vermisseaux quand même, s'y mettent et ébranlent l'empire de Satan, alors là c'est la honte. Pauvre Lucifer. On pourrait presque, comme dans certains films, compatir au sort du méchant. Vous savez, ce Lucifer-là, effectivement, en guise de défense, et il faut bien avouer qu'il est un peu nu. Il se trouve obligé d'opposer sa bonne vieille tactique de toujours, cuite et recuite, le mensonge. Et là, il fait fort parce qu'il veut faire passer Jésus lui-même pour l'un de ses sbires. Jésus pour quelqu'un qui obéit aux ordres de Belzéboul. C'est par Belzéboul que tu expulses les démons. Il fallait quand même oser. Vous voyez où en est réduit Satan. Et le pire, c'est que ça marche. C'est-à-dire que les juifs et les pharisiens jouent le jeu. Hein, vous connaissez cette devise, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et parfois, plus le mensonge est gros, et plus l'homme semble disposé à le gober. Songez aujourd'hui à ces nombreux articles de journaux, songez à toutes ces émissions de prétendus spécialistes qu'il nous faut avaler à longueur de temps, ou que nos amis qui sont aux marges de l'Église, voire même aux antipodes de l'Église, se plaisent à nous rappeler en permanence. C'est bien sûr, le leitmotiv en est clair, l'Église est la source de tous les maux, elle est une sorte de Satan. Elle n'est même plus la servante de Satan, elle est une sorte de Satan, c'est la source de tous les maux. C'est même à se demander si, avant la venue de Jésus et la création de l'Église, il y a 2000 ans, il y avait vraiment un mal sur terre. Si l'Église est l'auteur de tout le mal, hein, il faut croire que tout n'était avant Jésus-Christ, avant l'Église, que luxe, calme et volupté, comme dit le poète. Jésus riposte, et riposte très clairement pour fermer le bec de Lucifer. Il riposte par des affirmations auxquelles nous sommes assez peu habitués parce qu'elles sont très tranchantes. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disperse. C'est clair. Jésus qui est toute miséricorde, Jésus qui est toute patience, normalement, dans l'Évangile, voilà qu'il commence un petit peu, semble-t-il, à trouver le temps long. Et ce choix qu'il offre à l'humanité est extrêmement simple. Soit on est pour Satan et pour son royaume divisé, soit on est pour le Christ. Il n'y a pas d'échappatoire possible, il n'y a pas ce que proposent tant de politiques espérant faire rêver les foules à chaque échéance électorale. La troisième voie, la fameuse troisième voie, ça n'existe pas dans la vie spirituelle. Soit on est pour Jésus, soit on est contre lui, et alors on est pour Lucifer. Et Jésus montre ici, sans phare, la toxicité du mal. C'est un texte, l'un des textes de l'Évangile les plus clairs, où on nous montre tous les méfaits de Lucifer, tous les méfaits du mal sur la race humaine. En des termes qui pourraient presque nous désespérer. Chasser un démon, 7 autres apparaîtront. À ce rythme-là, on se dit qu'il vaudrait peut-être mieux rester avec quelques péchés mignons et au moins n'aurions-nous pas à endurer, après une période de combat et après avoir assagi ce petit péché mignon, des péchés ou des tentations beaucoup plus importantes. Nous ne sommes que de pauvres êtres humains, pas du tout des saints, donc nous voulons rester là tranquillement. Et comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase de Jésus? Évidemment, le Seigneur ne veut pas nous désespérer, pas plus qu'il ne veut nous pousser à l'inactivité, à la médiocrité spirituelle. Il nous dit d'aller au large, d'oser affronter les sept esprits. Jésus n'oublie pas, d'ailleurs, qu'il est Dieu, qu'il est maître absolu, et que ces sept démons seraient-ils une légion, comme il vient de nous le montrer quelques versets plus tôt dans l'évangile de Saint-Luc, il est capable de les mettre dans un troupeau de porcs. Donc, c'est pas le nombre de démons qui pose un quelconque problème au Seigneur Jésus. Mais Jésus veut simplement nous montrer qu'il ne faut nous faire aucune illusion quant aux moyens de combattre le mal. Cet homme fort que nous voyons, et qui, dans un premier temps, est vainqueur jusqu'à ce que plus fort que lui n'arrive, cette personne qui a réussi à exorciser un démon, mais qui finalement se retrouve devant sept démons et se fait écraser, qui est-ce sinon l'être humain livré à ses propres forces? On peut donner plusieurs interprétations de ce texte très complexe, les pères et toute la tradition s'en sont donnés à cœur joie, je retiens pour ma part une seule interprétation. Il s'agit donc de l'homme livré à ses propres forces. Je me permets de faire un parallèle avec une parole de Pilate à la fin de la vie de Jésus. Pilate s'écrit « Voici l'homme, ecce homo », souvenez-vous. Cet homme, bien sûr, c'est Jésus. Pilate, dans sa pensée, voulait désigner par là celui qui venait de souffrir la flagellation. Pilate, secrètement, voulait, en exposant Jésus, en exposant son corps nu et tuméfié, pousser la foule à demander grâce et finalement à libérer cet homme pour lequel Pilate était persuadé qu'il n'y avait aucune culpabilité à chercher. Mais je crois qu'il y a plus que ça dans la parole de Pilate et j'espère que vous ferez le lien avec le texte d'aujourd'hui. Si « voici l'homme » était, sans que Pilate n'en ait aucune conscience, en réalité, si ce terme-là désignait l'être humain, c'est-à-dire la foule qui est devant Jésus. « Voici l'homme », c'est-à-dire « voici l'homme livré à ses seules forces ». Cet homme-là, c'est l'Israélite pieux qui a sa tête, ses mains ornées de tous les attributs de la tradition juive. C'est cet homme membre du Sanhédrin, celui qui observe les 650 préceptes dont je vous parle quasiment chaque semaine. C'est à croire que ici nous célébrons la liturgie juive. C'est cet homme-là qui est religieux, qui croit pouvoir se fier à la loi de son Dieu, prétendument, et surtout aux interprétations qu'il en fait, et qui, en réalité, en restant là, à une interprétation toute humaine de la loi, en sclérosant la loi divine pour n'en faire qu'une petite créature de lui-même, le pharisien, en vient à tuer le Fils de Dieu lui-même. Cet homme-là, c'est encore l'homme civilisé, vous savez, le Romain. Ce soldat romain, ce Pilate, ou les autorités qui représentaient l'empereur sur place et qui ont laissé Jésus condamné, ces hommes qui ne parlaient que justice, qui ne parlaient que vertu, parce qu'ils lisaient parfois les philosophes, grecs et latins, et qui, ne se fiant qu'en leur propre force humaine, en la force de la raison et de la volonté, en sont venus finalement à laisser, en toute impunité, condamner un innocent. Voilà, je crois, un oracle de Dieu qui sort, quoi qu'il en ait, et quoi qu'il ne le sache pas, de la bouche de Pilate, comme un avertissement de Dieu lui-même, et qui rejoint tout à fait, je trouve, l'évangile d'aujourd'hui. C'est comme si Dieu disait par la bouche de Pilate, et il rejoint ce que dit Jésus aujourd'hui dans son évangile, « Si tu ne te fies qu'à tes propres forces, à ta petite morale humaine, par laquelle tu crois pouvoir extirper le mal, si tu ne te fies qu'aux droits de l'homme, par lesquels tu crois pouvoir enfin résoudre tous les maux de la planète, si tu ne te fies qu'à toutes sortes de philosophies ou de religions taillées à ta mesure, c'est-à-dire bien petites, un jour ou l'autre, tu verseras dans la bestialité. Un jour ou l'autre, de pur esprit que tu croyais être, tu deviens une bête pour ton frère et une bête pour toi-même. » Vous voyez donc cette mise en garde du Seigneur contre l'exaltation de l'être humain, contre l'exaltation de tous les systèmes qui se présentent à nous, c'est encore une influence diabolique, comme le remède à tous les maux. Bien sûr, mais l'homme n'est pas totalement mauvais. Bien sûr que tous les systèmes qu'il invente, il veut en faire un remède contre le mal. Seulement, Jésus l'avertit, fais bien attention, tu auras réussi peut-être à chasser un démon, c'est-à-dire un mal, effectivement. Peut-être auras-tu réussi à abolir l'esclavage, ou, c'est vrai, à rétablir une certaine égalité, mais saine, celle-ci, entre l'homme et la femme. Mais faites bien attention, le ravin n'est pas loin. À grands coups de discrimination positive et grand sel encore, voilà que tu vas tout mettre à mal parce que tu n'as pas fondé la justice, parce que tu n'as pas fondé ta lutte contre le mal sur la seule chose qui vaille, le seul roc, ma parole. Voilà ce que Jésus dit à la fin de l'évangile. Je sais qu'il est long cet évangile et qu'il est complexe, alors souvent on ferme les écoutilles avant la fin. Je me permets donc de vous rappeler cette dernière parole. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole et qui la gardent, c'est-à-dire qui la mettent en pratique. C'est la seule armure que nous ayons ce sont les armes de justice dont nous parlent, les armes de lumière dont nous parle saint Paul. C'est la seule arme que nous ayons pour pouvoir combattre le mal. Et alors, les démons pourraient être 14, 20, 2000 à frapper à notre porte. Si nous sommes pourvus de la parole même de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Souvenez-vous le récit, il y a 15 jours, dont je vous ai parlé au début de cette homélie, le récit de Jésus et des trois tentations. Comment Jésus, dans son humanité, qu'il savait faible, Jésus était infiniment puissant dans sa divinité, mais dans son humanité, il n'était qu'un homme, justement, donc faible. Et il avait à subir les assauts de Satan. Comment s'est-il défendu? En se réfugiant derrière la parole de Dieu. Il n'y a dans ce récit-là aucune parole propre du Christ. Je veux dire de Jésus homme, il n'y a que des rappels de la Sainte Écriture. Et c'est bien pour cette raison que Satan est obligé de faire ses mal et de quitter Jésus, d'être donc vaincu au cours de cette première manche du combat qu'il oppose au Fils de Dieu venu dans la chair. Il y a cette femme, bien sûr, la femme de l'Écriture qu'est la Vierge Marie. Comment triomphe-t-elle? Comment a-t-elle le privilège d'écraser la tête du serpent? Croyez-vous que ce soit parce qu'elle se fie en ses propres forces, en une morale quelconque, dans les droits de l'homme ou je ne sais quoi d'autre? Mais non, la Vierge Marie se tait et la Vierge Marie ne cesse de méditer les paroles de Dieu et même de méditer sur la parole de Dieu qui est son Fils, qu'elle regarde vivre, dont elle tire les enseignements, et parfois des enseignements vigoureux. Rappelez-vous de la scène du recouvrement au temple. Eh oui, Marie s'est fait parfois éconduire par son fils, elle s'est fait secouer par cette parole-là, mais docile qu'elle a été, elle a eu le privilège de vaincre le serpent et de devenir la reine des anges, c'est-à-dire bien supérieure même à Lucifer lui-même, et même à Lucifer s'il était resté dans sa gloire. Voyez donc ce secret que le Seigneur nous livre, nous le savons bien parce que 2000 ans de christianisme nous ont appris qu'effectivement, en nous réfugiant dans la parole de Dieu, nous n'avions rien à craindre. Oui, mais concrètement, le pratiquons-nous cet enseignement-là? Je veux dire, concrètement, est-ce que lorsque nous sommes dans l'épreuve, spontanément vient à notre esprit telle ou telle parole de l'Écriture, telle ou telle conduite de Jésus, la parole de Dieu venue dans la chair? Je ne le crois pas. C'est pour ça qu'il nous faut demander la grâce à Dieu, aujourd'hui particulièrement, de pouvoir vivre de cette parole de Dieu. Mais vraiment, je pense que tous les jours, nous aurons à reprendre cet ouvrage, de nous confier toujours plus dans la parole de Dieu seul et pas dans nos propres forces. Évidemment, c'est un combat, Jésus le sait bien, c'est l'un des combats les plus rudes, c'est bien pour cela qu'il formule sa consigne, et je termine par là, sous la forme d'une béatitude. Bienheureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est, pour ainsi dire, la clé de voûte de l'édifice des béatitudes. Vous savez, les 8 béatitudes que Jésus expose au début de l'évangile de saint Matthieu, dans le sermon sur la montagne. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Les béatitudes, nous le savons, et Jésus le sait bien lorsqu'il les promeut, ne sont pas des choses qu'on peut immédiatement mettre en pratique. Ce sont des choses héroïques auxquels il nous faut tendre et dont nous n'arriverons à vivre que moyennant l'aide de sa grâce. Et donc il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, d'en avoir une intelligence humaine et ensuite de se croire quitte. Voilà, nous savons ce qu'est le bien et nous arriverons immédiatement à le faire. C'est ce que croyait Platon, vous connaissez la suite. Confions-nous donc à la Vierge Marie qui a su, elle, plus que tout autre, mettre en pratique cette parole de Dieu, encore une fois, se ranger derrière elle, non pas parce qu'elle était timorée, mais parce qu'au contraire, elle était extrêmement prudente, extrêmement sage, et c'est ainsi qu'elle a pu envoyer des traits enflammés sur la tête de ce démon maudit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.